Nous sommes toujours les premiers, 8h13, lundi 22 janvier, et nous recevons un invité par téléphone.
Corentin, tu nous entends?
Je vous entends, absolument. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Vous m'entendez plus que je ne vous entends, c'est ça?
Oui,
vous
m'entendez pas. On ajuste ça.
Tranquillement.
Très bien, tranquille.
Voilà, je vais faire ça en même temps, allez-y. Hein.
On peut y aller?
Vas-y,
Seb.
Bonjour Corentin, est-ce que tu vas bien?
Mais je vais très bien, merci de m'accueillir par téléphone. J'aurais voulu être là dans le studio et enfin vivre une émission Les Promesses de l'Ombre en direct depuis le studio avec
de l'ombre,
dans la chaleur du
studio. La chaleur, c'est pas encore tout à fait ça, mais
exactement. Ah, bon voilà, mais ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera par téléphone aujourd'hui, donc merci de m'accueillir.
Merci à toi de nous répondre. Du coup, Corentin, actuellement, tu joues dans la pièce L'Herbe de l'Oubli, une pièce pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier quoi? Peux-tu nous en dire?
Pour ne pas oublier Tchernobyl, malgré les bientôt 30 ans qui nous séparent de l'explosion du réacteur numéro 4, donc l'explosion de la centrale. On a tendance aujourd'hui à penser qu'en fait tout ça c'était il y a très longtemps et que donc les conséquences de cette explosion n'existent plus, que le problème a été résolu, que le problème n'est plus très grave, n'est plus très important. Et alors qu'en fait, évidemment, dans un cas comme celui-là, on est parti pour une problématique qui va durer des centaines, des milliers, voire des dizaines et des centaines de milliers d'années dans certains cas. Donc 30 ans, c'est pas grand-chose. Et donc l'idée, c'était de prendre le coup, de dresser un constat de comment ça se passe 30 ans après là-bas. Et pourquoi ça grésille très fort? C'est moi? Ma cuisine? C'est quoi? Moi aussi, je vous entends grésiller très fort, mais...
Ouais, de plus en plus.
C'est vrai que tu enlèves ta passoire sur la tête.
Là, il est correct.
Tu restais trop longtemps à Tchernobyl, tu es trop de...
Blague récurrente. Chez mes amis, très dommage.
Attends, là ça, non,
mais là, ça va mieux.
Oui, excuse-nous.
Non, mais il faut bien faire des blagues débiles le lundi matin, sinon c'est pas drôle.
C'est très bien, on est bien d'accord.
Du coup, tu
l'as. On va devoir faire un petit peu avec. Je ne sais pas d'où ça vient, je suis désolé.
Ouais.
Là, ça se calme.
Ouais. Voilà. Du coup, donc tu disais les 30 ans qui ne sont pas oubliés en fait, car rien n'est guéri là-bas. Est-ce que les radiations ne disparaissent pas du jour au lendemain, comme ils ont voulu nous faire croire?
Absolument, mais c'est compliqué parce que, si tu veux, personne ne sait qui est vraiment en bonne santé, quelles sont les maladies qui sont liées à ça. Alors oui, on en dénombre toute une liste, mais c'est-à-dire que il y a des gens qui ont été impactés directement par l'explosion, mais finalement, ceux-là, ils sont assez peu nombreux. Il y a ceux qui ont été impactés, on parle des liquidateurs qui ont essayé donc de solutionner le problème à l'époque et qui ont été impactés pas par l'explosion elle-même mais par les conséquences de l'explosion. Et puis il y a les gens qui vont être impactés par le nuage, et le nuage il s'est baladé un petit peu et il s'est baladé après pas très loin de la centrale dans des proportions assez importantes, notamment dans le sud de la Biélorussie qui est le pays le plus touché en fait par le nuage. Et là donc c'est pas des gens qui sont touchés directement par l'explosion, c'est des gens touchés par le nuage qui s'est baladé et qui a déposé tout un tas de crasses, dont le césium et le strontium, et par endroits le plus tôt. Et là, si tu veux, c'est parti pour des années, effectivement, et tu peux être malade en buvant une tasse de... Voilà. Le problème, surtout, pour ces gens, c'est de consommer au quotidien tous des produits qui vont... et de ne consommer quasiment que ça. Ou là, on peut y avoir des risques de mortalité en quelques années, quoi.
Ok. Du coup, oui, parce que bon, on parle du problème. Maintenant, comment vous l'avez retranscrit dans la pièce? Parce que du coup, moi, j'ai vu la pièce. Je crois que je suis le seul. Ouais. Non, oui, les deux autres l'ont pas vu, je crois.
Merci d'être venu. Merci.
Et du coup, on voit. Du coup, vous êtes basé sur quoi pour créer la pièce? Ce sont parce que c'est des témoignages. Vous êtes parti sur des.
C'est ça, voilà. Donc en fait, il y a eu trois voyages, dont deux ont vraiment rassemblé toute l'équipe du spectacle. Hein. Donc aussi bien le vidéaste, la la personne qui a créé les marionnettes, Ségolène Denis, que je salue au passage, les comédiens, le metteur en scène. Et donc, en fait, on a rencontré plein de gens. On a rencontré plein de gens en Russie, donc je disais, hein, qui est un pays qui a été fort touché par ce nuage et qui est un pays vraiment où c'est un enjeu très important pour une partie de la population, donc de vivre dans des territoires contaminés. Et il y a eu un voyage aussi avec toute l'équipe en Ukraine, où là, on est allé à Kiev et puis on est allé à Tchernobyl, en fait. On est allé, donc vraiment, on est rentré dans cette zone interdite. On est allé dans la toute petite ville de Tchernobyl, et on est allé près de la centrale, et puis on est allé surtout à Pripyat, qui est cette ville fantôme qu'on connaît, donc qui hébergeait environ 50 000 habitants au moment de la catastrophe, donc en avril 1986, et puis qui, 36 heures après l'explosion, a été évacuée complètement. Donc il y a 1200 autocars qui sont venus. C'est des chiffres un petit peu, enfin, tu te demandes comment les mecs ils te sortent 6 heures, mais bref, et donc on a évacué la population à l'époque, mais de Pripyat. Et alors, ben voilà, sur place, ben oui, alors pas à Pripyat évidemment, mais dans la région, dans la zone ou en dehors, ben, on a rencontré des gens à Kiev, on a rencontré beaucoup de gens en Biélorussie. Et c'est les témoignages de ces gens, proches ou moins proches de la catastrophe, ben, qui nous ont plus qu'inspirés, qui nous ont guidés, et puis qui sont retranscrits pour certains complètement sur scène, voilà, pour former le texte de ce spectacle, L'herbe de l'oubli.
Ok. Parce qu'on voit bien, ouais, il y a plusieurs petites scénettes comme ça, où à chaque fois c'est un témoignage différent. Avec en plus les vidéos sont assez jolies, enfin jolies pas dans, enfin voilà.
Ah mais certaines sont vraiment jolies.
Moi celle qui m'a le plus marqué, celle de la visite où il montre, ah bah là c'est mon ancienne maison qui a tout été recouvert, ouais. Mais non, bah tout est simple parce qu'il y a des forêts. C'est la nature a repris ses droits et ils disent ça comme ça, alors que non.
Ben si tu veux c'est là que c'est très compliqué. C'est là que c'est en fait. Bah, c'est un moment que j'aime bien aussi. mais donc, concrètement, cet endroit-là, il se trouve dans la région de Klimavitchy, en Biélorussie. Et effectivement, donc, on est allé dans un petit village, tout petit, qui a été complètement détruit. Alors, nous, on pensait qu'il avait été détruit il y a longtemps, tout de suite après la catastrophe. Pas du tout. En fait, il a été détruit fin des années 90, début 2000, donc très longtemps après. Donc les gens ont quand même vécu une partie du temps là-bas. Certains ont été évacués, mais certains ont voulu rester. Bon, ça c'est encore une autre problématique du sujet. Et bref, donc ce village a été détruit, et en arrivant dedans, mais ce qui est frappant, c'est que la nature a repris ses droits. C'est un peu la même chose à Pripyat, dans la fameuse ville fantôme, mais à Pripyat, tu as encore les barres d'immeubles, tu as encore des choses comme celle-là. Ici, les maisons ont été détruites et enterrées sous le béton. Le béton, en fait, normalement, diminue un peu la radioactivité, mais bon, évidemment, c'est-à-dire que ça s'enfonce aussi dans le sol, donc ça peut aussi peut-être les nappes phréatiques, ça peut être d'autres choses, donc bon, c'est une question quand même très très compliquée. Mais effectivement, donc, tu vois que la nature a repris ses droits, et ce village, bah, la nature dedans est magnifique. Un petit ruisseau avec un barrage de castors, bon, enfin voilà, c'est un peu bucolique, quoi. Et en même temps, c'est pollué. Bien sûr que c'est pollué. Il n'y a aucun doute sur c'est complètement pollué et que cette radiation, elle est là pour une durée qu'on a du mal à imaginer à notre petite échelle humaine. Et c'est ça qui est frappant. Bah oui, c'est de voir cette belle nature qui gagne, ces arbres, ces fleurs. Là, tout ça reprend ses droits. Et d'imaginer qu'il y a une vie là-bas et d'imaginer qu'il ne pourra plus y en avoir avant très, 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 très longtemps. Un peu peut-être par la bêtise de l'homme.
Ouais. Ouais, c'était le petit.
Ou par son audace.
Ou même la première scène. Moi, je vais pas tout spoiler non plus parce que je vous laisse aller voir la pièce. La première scène avec le couple qui dit bah, nous, on fait pousser tous nos légumes, tout est bio, tout est bio. Tu dis mais non, ça pousse sur les terres qui ont été contaminées, c'est pas possible. Enfin, c'est assez rigolo quoi. Enfin, rigolo.
Ouais.
C'est toujours pareil, c'est rigolo, c'est comique, mais c'est pas drôle, c'est plutôt dramatique. Mais bon.
Alors, d'abord, t'es drôlement sympa parce que tu parles de deux scènes dans les deux jours, hein, que sont la ferme bio. Donc moi, j'ai envie de te dire merci beaucoup, hein, bon. Mais effectivement, non, alors, cette scène-là, c'est quelque chose de très particulier. Donc là, ça, alors en Biélorussie, il y a aussi, comme en Ukraine, une zone interdite qui s'appelle, attention, la zone radio-écologique de Polésie, ce qui est quand même un nom un peu mystérieux. Ouais. Et donc, à la frontière de cette zone, à un endroit de la frontière, il y a une petite ville qui s'appelle Brahin. Toute petite, je sais pas, de 2-3 000 habitants, c'est un petit machin. Et oui, c'est un très gros village, mais c'est quand même une petite ville. Et en gros, bah, c'est un endroit qui devrait plus exister, qui devrait plus être sur la carte, mais il sait que c'est en bordure de zone et que, est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de la zone, qui sont allés vivre là, il y a des gens, enfin bref, on n'a pas pu empêcher les gens d'être là-bas, donc bah, voilà, c'était comme ça. En bordure de zone, bah, il a bien fallu que les gens continuent d'habiter. Et donc, il y a des gens à Braguine. Et alors, bah, il faut bien vivre. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans cette Biélorussie, et l'Ukraine aussi, il y a quand même une situation économique qui pour beaucoup de gens n'est quand même pas très favorable. Et donc, comment tu vis avec 75 euros par mois, si tu veux, même en Biélorussie, c'est quand même compliqué. Donc faut bouffer. Et donc, faut trouver des solutions. Alors les Biélorusses, les Ukrainiens, les Russes, beaucoup de ça, je suis moi-même d'origine ça, aiment bien les champignons des bois. Bon voilà, c'est un truc un peu de... On raconte même que c'est comme ça qu'on piégeait les espions américains pendant la guerre froide, c'est parce que même s'ils parlaient très bien russe, qu'ils avaient une très bonne culture, etc., les champignons, ils ne les connaissaient pas, alors que les Russes les connaissaient parce que leur grand-mère, tout ça, leur en parlait depuis tout petit. Et donc, les gens vont toujours dans la forêt chercher des champignons. Ils se nourrissent toujours avec ça, parce qu'ils aiment ça, mais aussi parce que c'est un complément à leur alimentation, qui est gratuit, donc c'est un complément gratuit. Mais en plus de ça, les gens ils cultivent leur jardin, même si on leur dit qu'il faut pas, même si on leur dit que c'est dangereux, même si on leur dit que ils ont pour la plupart peu de ressources et pas assez que pour acheter des produits qui viendraient de zones éloignées. Et donc, ils cultivent leur jardin et certains se sont mis en tête de faire des légumes bio, des légumes propres, des légumes sans engrais chimiques, voilà. Alors, il y a vraiment là quelque chose de paradoxal, parce que évidemment, il y a cette zone dont indubitablement elle est contaminée, il y a aucun doute, mais en même temps, une volonté de dire mais non, on peut combattre ça, on peut améliorer, on peut quelque chose. Et puis en même temps, il y a quand même une notion de enfin nous, c'est ce qui nous traverse l'esprit quand on visite cet endroit, quand on rencontre ces gens. C'est un endroit très beau aussi, enfin voilà, bon, c'est là aussi c'est la nature, c'est elle est très très belle là-bas, mais on sent ou le déni ou le mensonge ou l'ignorance ou la combativité, mais tu sais plus très bien dans quoi tu es. Parce que la radioactivité, une fois elle est là, une fois elle est plus là, on te dit oui, non, mais parce que ici, mais alors oui, il y en a beaucoup, mais il faut quand même, alors finalement ça va. Et donc, là encore, dans ce gîte et cette ferme bio, tu comprends que, oui, voilà, un jour c'est là, un jour c'est plus là, un jour on t'explique que finalement non, ça va. Et tu sais plus très bien. Et en interviewant des spécialistes, même biélorusses, même ukrainiens, ou occidentaux, tu te rends compte que c'est impossible que ce soit clean. Mais les mecs t'expliquent ça quand même. Et c'est quand même quand tu vis ça et que les gens t'expliquent ça à 50 cm de toi ou à table en mangeant les produits du jardin, tu peux te jurer qu'il y a une forme de malaise qui naît. Et donc, donc il y a cette scène. Ouais. Ouais, ouais.
Parce que oui, il suffit de cuire les légumes 3 fois avec du gros sel. ça me paraît, c'est assez rigolo. On prend 5 douches, c'est bon.
Ouais, ils nous l'ont expliqué, ça. Ils nous l'ont expliqué, c'est vrai. Hein. Donc les 5 douches, bon, c'est vraiment à l'époque de la catastrophe, c'est ce qu'on recommandait aux gens, effectivement, de prendre beaucoup de douches pour éliminer la radioactivité du corps, etc. Bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je sais pas. Ils disent que à l'époque ils ont pris des douches et que maintenant ils prendraient des douches froides parce que s'ils avaient su, parce que les douches chaudes ça ouvre les pores de la peau et que les froides ça les ferme. Donc les gars, en cas de problème, maintenant vous savez quoi faire.
C'est désolé.
Mais en même temps, qu'est-ce que ça a réglé? J'en sais rien. Mais par rapport aux douches et par rapport, oui, à ce que tu dis sur il faut cuire le. Quand ils ont commencé l'explication de ce qu'il fallait faire avec les champignons ou la viande, parce que même la viande est contaminée, parce que les vaches mangent l'herbe et donc C'est juste impossible, ouais. Mais ça, c'est expliqué dans le spectacle. Je vais pas, hein, oui. pas spoiler ça. Mais voilà. Et puis il disait qu'il fallait boire du vin aussi.
Il
disait surtout que à Kiev, c'est beaucoup les Ukrainiens qui nous ont parlé de ça. Donc quand ils ont compris qu'il y avait une catastrophe, puisque ça n'a pas été public rapidement, hein, on a parlé de petite explosion au début, pas d'un incident, mais quand les rumeurs les plus terribles se propageaient dans la ville et aux alentours, on disait qu'il fallait boire du vin rouge. Alors les gens se réunissaient et buvaient du vin rouge parce qu'on disait que ça éliminait les nucléides. Alors je sais pas si ça éliminait les nucléides, mais en tout cas les gens étaient du coup, pour certains, beaucoup moins apeurés, puisqu'ils étaient un peu pompettes force de descendre des bouteilles, quoi. Voilà.
Je peux poser une question. Parce que du coup, en t'écoutant, je me dis que voilà, vous avez été sur place, vous avez rencontré toutes ces personnes, et puis vous arrivez un peu avec finalement votre regard un peu plus critique en expliquant bah oui, ils ont ces croyances là, et etc. Et dans moi, j'ai pas vu le spectacle, hein, du coup, je me demande un peu dans le spectacle comment alors vous représentez par ces témoignages en fait les personnes. Est-ce que vous gardez cet œil critique comme ça, ou est-ce que je sais pas, il y a une autre forme d'empathie, voilà. Enfin, je sais pas si ma question est un peu claire, mais.
Si, non, ouais. Mais écoute, c'était une grande question pour nous, effectivement. Pas pour le coup, pour les légumes bio, là, donc c'est une scène qui vient relativement au début du spectacle. Et donc on se dit, mais est-ce que les gens vont comprendre que c'est pas vraiment. Que c'est une démarche comme une autre, mais que c'est dans un endroit qui est clairement très 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 pollué, et que eux ils sont un chouïa dans le déni quand même. Et donc c'était une vraie question. Je crois que finalement notre regard critique, il vient de ce qu'on choisit de dire, et de celle-là. Mais par contre, après les témoignages, ils sont un petit peu bruts. Donc pour la ferme bio, on n'a pas filtré. Alors oui, bon, il a fallu couper dans la longue soirée, la longue après-midi soirée qu'on a passé là-bas, mais sinon c'est voilà, mais non, il y a pas, notre regard n'intervient pas à cet endroit-là, donc notre critique à nous, elle est de ce dont on choisit de parler, de ce dont ce qu'on choisit aussi de juxtaposer comme texte, puisque bon après voilà, il y a l'intervention de quelqu'un qui parle avec un regard plus scientifique, plus médical, et qui pense que c'est compliqué de faire des produits bio dans la région de Bragin. Donc voilà, donc c'est plutôt de cette manière-là. Mais on pensait qu'il fallait aussi restituer la parole, parce que ces paroles-là existent dans ces régions-là, et que donc bah elles ont le droit d'exister, parce que bon après il y a des scientifiques qui disent que c'est pas possible, etc. Bon, si ça tombe, ces légumes ils sont vraiment bio, mais j'ai quand même un doute.
Ben oui, en fait, et du coup, tu disais voilà, notre critique, elle se situe pas là. Est-ce que donc il y a cette notion d'oubli, justement de ne pas oublier, mais le nucléaire, c'est pas fini en fait ici non plus et ailleurs. Et j'imagine qu'alors la critique qui est un peu plus au-dessus est plutôt une critique aussi du nucléaire.
Alors, ben si tu veux. C'est compliqué de revenir de là-bas et de se dire le nucléaire c'est super, tu vois. Donc l'idée de base, c'est pas de faire une critique du nucléaire. Nous, on part pas en guerre, on part pas en croisade contre le nucléaire. C'est le projet, c'est pas ça. Le projet, c'est vraiment d'aller voir, tiens, c'est quoi là-bas 30 ans après. En deux mots, le projet, si tu veux, il est né de la découverte du livre La Supplication par Jean-Michel Daube, donc le metteur en scène du spectacle, mais aussi par l'accueil donc par Jean-Michel d'un Jean-Michel et son épouse Héloïse qui joue dans le spectacle, d'un enfant biélorusse qui vient donc de régions contaminées, hein, d'accord, par une association qui s'appelle les Enfants de Tchernobyl qui organise ça tous les étés, qui organise l'accueil par des familles de voilà. Et donc si tu veux, c'est un peu la porte d'entrée vers cette problématique et vers le fait de se dire mais en fait cette problématique existe toujours, il y a encore des gens qui vivent dans les zones contaminées, sans trahir de secret, le père de ce petit bonhomme, il est mort à 31 ans d'un cancer du cerveau. Alors c'est des choses qui arrivent chez nous aussi, hein, mais il se fait que bon, lui, il aimait bien la cueillette aux champignons. Bon voilà, bon si tu veux, donc à la base c'est de parler de ça. Après voilà, c'est évident que, en plus, c'est évidemment dans l'actualité pour le moment chez nous aussi, mais ben oui, ça te renvoie à des questions sur le nucléaire. Le nucléaire, c'est un truc incroyable. C'est à la base, c'est faire beaucoup d'énergie. C'est un déploiement d'énergie avec très très peu de matière. C'est un truc magique en fait. Sauf que le problème, c'est que quand ça merde, bah c'est ça. C'est Tchernobyl, c'est Fukushima. Mmh. Et même quand ça merde pas, puisque si tu veux, il y a aucune solution pour gérer les déchets importants, et notamment pour gérer les démantèlements de centrales. Donc, bah oui, ça renvoie fatalement, malheureusement, à toutes ces questions-là, et qui résonnent encore plus dans l'actualité chez nous, puisqu'en ce moment, on se demande ce qu'on va en faire de nos centrales qui devaient s'arrêter en 2005, et qui sont toujours en route, et c'est parti encore pour quelques années, semble-t-il.
Et des déchets aussi passent si loin d'ici à Bure, où les gens se mobilisent aussi. Je t'en prie.
Non, mais c'était ça l'autre problème, parce que là, bon, on parle de Fukushima et Tchernobyl qui ont vraiment merdé, mais on a aussi le problème de celles qui fonctionnent et qu'il va falloir arrêter, et qu'est-ce qu'on va en faire après. Parce que là, on est parti pour plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers, quoi.
Et je posais la question, en fait, parce que comme je voyais, en fait, sur le site du Tête de Poche où se joue la pièce, qu'il y avait le 23 janvier une discussion.
Une discussion. Oui.
Bah voilà, je me demandais, en fait, où se situait l'engagement là-dessus, enfin, si je peux dire ça comme ça. Voilà.
Le nôtre ?
Mm-hmm. Bah le fait à l'issue du spectacle d'organiser une discussion qui s'appelle Nucléaire Direction Sortie, c'est pas anodin non plus, quoi.
Oui, non, mais tu sais, bon, les débats dans les théâtres, quand un spectacle programmé aborde une problématique, c'est quand même quelque chose de courant, d'accord ? Donc on n'a rien inventé. Et, bon.
On est bien d'accord.
Voilà. et c'est sur beaucoup d'autres sujets. Hein, bon. Ensuite, bah, nous, notre façon d'être militant, je crois que c'est de faire ce spectacle. Point. C'est ce qu'on dit sur scène, c'est ce qu'on fait. C'est voilà. Moi, le débat, je le regarderai avec intérêt, mais je prendrai peut-être pas part, ou alors comme tout citoyen, ou comme tout spectateur, ou que voilà. Donc, et ce débat, je crois qu'il est organisé par le Théâtre de Poche, et bon, là, la compagnie tient, mais je veux dire, c'est pas un acte militant incroyable je crois pas de faire ce débat. Je crois par contre que c'est bien de proposer ce spectacle, c'est pas ça, c'est même très, 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 très bien, et de proposer, pour ceux qui le souhaitent, un échange, donc, effectivement, demain soir, mardi, à l'issue de la représentation. Et il y aura des pour et des anti, des gens qui pensent que c'est pas si mal et qu'il y a des solutions, etc. Moi, j'ai un autre avis sur la question. Je serais heureux d'entendre ce qu'ils ont à dire et d'échanger et que le débat
est...
On avait envie de parler un peu plus profondément de la pièce et de la mise en scène, puisque ça passe quand même par les marionnettes.
C'est un spectacle assez pluridisciplinaire. Il y a la vidéo, donc les marionnettes. Il y a de la musique.
Il y a de la grave belle musique de Pierre Jacquemin, absolument.
Et voilà.
Il y a un moment de danse incroyable, mais on peut pas tout dire, mais
ouais,
ça existe.
Et du coup, le choix des marionnettes, parce que les marionnettes, moi, m'ont impressionné, elles sont immenses, elles sont très grandes, elles sont... Enfin voilà, pour ceux qui n'ont pas... Enfin, je vous conseille d'aller le voir. Mais du coup, comment vous avez décidé de mettre tout ça en place ? Commencer par la vidéo, ensuite faire une petite scène, ensuite faire venir les marionnettes. Il y a plusieurs types de marionnettes. Il y a donc ces immenses marionnettes. Il y a les plus petites, les vêtements. Enfin oui.
Alors en deux mots, donc en fait, donc Jean-Michel Daube, qui est donc le metteur en scène et directeur artistique de la compagnie .0, est tombé dans la marionnette, tombé dans l'univers de la marionnette il y a quelques années. Avec le spectacle L'école des ventriloques, donc une pièce de l'ami Jodorowsky. Je crois que c'est la première pièce créée mondialement d'ailleurs de Jodorowsky, et donc dans cette pièce, ben il y avait beaucoup de marionnettes. C'est une pièce qui a fait le tour du monde, vraiment, qui a joué au Brésil, en Russie, au Japon, en Corée, enfin je sais pas où ils sont allés, mais ça a vraiment beaucoup tourné, ça tourne depuis 10 ans, et ça tournera encore cette année d'ailleurs au Théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve, au Théâtre 140, à la Louvière, au Central, bref. Et donc bah, c'est un peu la marque de fabrique de la compagnie Point Zéro, donc c'est l'utilisation de la marionnette dans ces spectacles. On en utilisait un petit peu moins dans le spectacle précédent qui s'appelle Gun Factory. Et ici, ben voilà, se sont un peu immiscés d'abord et puis carrément imposés, hein, puisque ça devient une évidence de par leur poésie, de par leur aspect parfois menaçant, ouais. Méga flippant. Ben voilà, que ça parlait, ça racontait ce qu'on voulait raconter. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont là. Et effectivement, il y en a des petites, il y a de la marionnette à fil, mais il y a surtout de la marionnette portée, en fait.
Ouais, ouais.
Puisque la compagnie utilise beaucoup les marionnettes portées.
J'avais ces énormes ombres comme ça qui se promènent sur scène, c'est assez impressionnant.
Exactement, comme une menace qui plane sur les différents intervenants tout le temps. Ouais, ouais.
Très silencieuse.
Et un beau
aussi.
Cheval aussi.
Oui, le cheval.
Voilà. Vous allez voir les photos et surtout le spectacle. Dis-moi.
Du coup, qu'est-ce qu'on...
Ah. Bah, j'ai encore une question.
Vas-y.
Mais, et Corentin, toi, du coup, en tant que comédien dans la pièce, est-ce que les marionnettes, comme ça, c'est quelque chose que tu avais déjà manipulé avant? Est-ce que c'est une première?
Très, 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 très peu avant. En fait, je l'avais fait à l'IAD, donc Jean-Michel est professeur à l'IAD, et j'ai eu le plaisir d'aborder un petit peu la marionnette avec lui, mais il y a de ça quand même... 7-8 ans, et mais c'était au cours d'un bref exercice, et de voilà. Donc et dans Gun Factory, moi je joue avec une marionnette, donc je lui parle. Dans Gun Factory, il y a ma petite fille qui est une marionnette, voilà, qui je parle, avec qui j'échange. Mais non, j'avais pas manipulé de marionnette vraiment dans un spectacle. C'est le cas ici, j'en suis très très heureux. C'est vraiment autre chose. Il y a un truc qui renvoie un petit peu à une forme d'humilité, puisque l'acteur, le bavard impénitent que je suis, il vient un peu se cacher derrière,
un peu
derrière
dans
cette marionnette. Exactement. Et voilà, il y a effectivement donc des marionnettes portées, donc vraiment on va mettre une main dans la tête de la marionnette et l'autre main va devenir la main de la marionnette, bien souvent. Et puis il y a effectivement une marionnette à fil, il y a un cheval, il y a une marionnette, c'est une espèce de marionnette de table, donc avec des petits bâtons derrière, et on va faire avancer le corps et la tête comme ça, et je dois en oublier de d'autres, mais voilà, et c'est un grand plaisir au final, j'aime beaucoup ça.
Et comment ça se travaille, ça, en fait? Parce que, donc tu t'as expliqué là techniquement un peu, voilà, où passer les mains, etc., mais entre ton corps à toi et le corps de la marionnette, comment tu travailles ça?
Ben, je crois qu'il y a différentes techniques, mais en tout cas ici, bon, c'est pour l'aspect un peu pratique, disons qu'on plonge dans les vêtements de la marionnette, en tout cas une partie, et après comment ça se travaille, ben, si tu veux, avec une marionnette portée, en fait on va regarder un peu la nuque, donc on va un peu faire semblant, on va servir un peu de sa vision périphérique, mais on va un peu faire semblant de pas trop regarder ce qui se passe, on va regarder un peu derrière la marionnette pour pas que le focus justement du spectateur viennent trop sur le manipulateur.
Oui, c'est un peu ce que je me demandais. Ouais.
Voilà, sinon t'as une grosse tête de manipulateur qui sourit derrière et qui raconte des blagues derrière la marionnette. Bon, ça peut être rigolo aussi, mais c'est une autre approche. Et donc ici, oui, c'est ça. C'est un peu pour le manipulateur de faire le focus sur l'arrière de la marionnette et après de vraiment faire vivre, de chercher un peu la respiration de la marionnette, de chercher les gestes qu'elle peut avoir. Qui soit quotidien ou non. Alors, il y a des marionnettes qui sont plus propices à certains gestes qui amènent certains mouvements, certaines choses. Et voilà, c'est évidemment avec les conseils et les propositions aussi d'un metteur en scène ou de regard extérieur pour t'aider un petit peu à faire évoluer le bazar.
J'imagine qu'alors il y a une espèce de part d'impro, parce que manipuler ça, en fait, tu peux pas être dans la gestuelle millimétrée.
Millimétrée peut-être pas, mais il y a quand même une précision. Tu dois avoir ça. Après, il y a quelque chose en fait d'instinctif quand tu. L'idée, si tu veux, c'est de que le regard soit au bon endroit. Donc c'est aussi bien vers le public que vers un autre acteur ou une autre marionnette. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus précis possible. Et donc, à force de manipuler, tu sais un peu où elle regarde. Et donc, c'est un peu le bout de tes doigts qui regarde. Et donc, faut bien viser, quoi. Et donc, faut la mettre au bon endroit pour que ce soit quand même le plus précis possible. Et dans l'improvisation, il peut y avoir des choses. C'est aussi intéressant d'improviser avec les marionnettes. Ici, c'est quand même une chorégraphie plus précise, quoi. Plus précise, ouais.
On rappelle un petit peu les infos pratiques ?
Mais carrément, donc du mardi... Non, vas-y.
Non, mais on t'écoute. Du coup, la pièce, elle se joue quand, où, à quelle
elle
heure ?
Elle se joue donc du mardi au samedi à 20h30, tous les soirs, mardi au samedi à 20h30.
On rappelle le titre, hein, L'herbe de l'oubli.
L'herbe de l'oubli, absolument.
Hôtel de Poche.
Jean-Michel Daube, compagnie.0. Et c'est au Théâtre de Poche, donc dans le bois de la Cambre. Chemin du gymnase, pour être exact, dans le bois de la Cambre, donc et voilà, et c'est jusqu'au 3 février, jusqu'au samedi 3 février, donc il reste 2 semaines, mais ça passe vite 2 semaines, donc ne traînez quand même pas, chers amis spectateurs, et donc on y parle de Tchernobyl, un tout petit mot rapide sur le titre quand même, mm-hmm. Si vous êtes d'accord.
Oui, vas-y.
Vous êtes d'accord. C'est que en deux mots, donc il y a une histoire. En fait, à Tchernobyl même, il y a une statue d'un ange. Un ange avec sa trompette. Et voilà, il y a une statue près. Il y a un tout petit musée consacré à la catastrophe de Tchernobyl. Dans la petite ville de Tchernobyl, où il y a encore quelques habitants dans la petite ville de Tchernobyl, c'est petit en fait, hein, la petite ville de Tchernobyl. Et bref, en fait, cette histoire de cet ange, c'est un extrait de l'Apocalypse, et c'est les locaux qui ont fait le lien entre les deux, parce que Tchernobyl en ukrainien, ça signifie l'absinthe. D'accord ? Mmh. Et qu'il y a un passage de l'Apocalypse qui parle d'une étoile nommée Apocalypse. Qui se serait précipité comme un flambeau sur la terre et qui aurait contaminé les eaux et les aurait contaminés donc à cause de l'absinthe et les aurait rendus impropres et aurait empoisonné les hommes. Et donc les gens de là-bas, certains, ont vraiment vu une espèce de prédiction apocalyptique et donc pour eux, voilà, pour certains, il y a aucun doute que c'est ce parallèle, et donc l'herbe de l'oubli, c'est l'absinthe, et donc voilà. Et donc, voilà, donc, un petit peu plus sur le titre aussi, l'herbe de l'oubli au Théâtre de Poche, jusqu'au 3 février, mardi, samedi, 20h30.
C'est chouette. Merci hein, Corentin.
Merci Corentin, oui.
D'avoir pu te lever si tôt.
Des promesses de l'aube. C'est que je suis encore aussi triste de ne pas avoir rencontré aujourd'hui dans le studio où il fait pas si chaud, mais quand même.
Oh, ça va, hein, maintenant, c'est plus cool. Hein.
Maintenant, ça va.
Ça va, ouais. Plus le jour se lève, on le voit par rapport au Velux.
Ouais.
Donc, un peu.
Je
quoi,
vous confirme.
C'est gris.
Dans ma cuisine aussi, le jour s'est levé.
Ouais, hein, c'est ça.
Donc, ça va mieux.
Bah ouais, en tout cas, on te remercie encore bien. Et puis, bon spectacle.
Bonne continuation, hein. Oui.
Eh ben, merci beaucoup à vous et puis bonne continuation. Et je vous écoute aussi le matin avec grand plaisir pour être de bonne humeur et apprendre des choses.
Superbe, merci Quentin.
Au revoir, bonne journée, à très vite. Ciao.